La revue de presse internationale avec vous, François Chagnot, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Les Philippines montrent les muscles face à Pékin en mer de Chine.
Oui, et c'est en lisant la une du quotidien philippin de Manila Times qu'on saisit à quel point le ton monte entre les deux pays. Alors je vous redonne le contexte, cela fait des années que Pékin et Manille se disputent le contrôle de l'archipel des Spratleys. Alors à première vue, il s'agit de quelques confettis perdus en mer de Chine méridionale entre le Vietnam et les Philippines. Mais il faut bien comprendre que ces minuscules îlots sont éminemment stratégiques car celui qui les contrôle, contrôle un tiers du commerce maritime mondial. Pas étonnant donc que Pékin et Manille cherchent à s'attribuer les Spratleys en construisant des bases militaires. Bon, jusque-là, rien de nouveau. Mais la semaine dernière, les tensions ont passé un cap. Des gardes-côtes chinois ont utilisé des canons à eau pour empêcher l'armée philippine de ravitailler ses soldats positionnés dans cet archipel ô combien stratégique. Au moins 3 membres de la marine ont été blessés. Ce que vous entendez derrière moi, c'est la piste sonore d'une vidéo diffusée par le média en ligne Rappler qui témoigne de la violence de cet accrochage. Alors la réponse de Manille ne s'est pas fait attendre. Sans désigner explicitement la Chine, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré, je cite, que les Philippins ne se coucheront pas face à la menace. Le chef de l'exécutif a donc pris plusieurs mesures de rétorsion. Depuis hier, l'ensemble des forces armées, des services de renseignement et même l'agence spatiale philippine font partie d'un conseil de défense maritime. Cette nouvelle institution renforcée est censée répondre aux attaques, je cite, dangereuses, illégales et agressives. Et cette posture plutôt guerrière ne fait pas du tout l'unanimité dans le pays. L'éditorialiste du Manila Times accuse le président Marcos de conduire les Philippines au bord d'une guerre calamiteuse avec la Chine. En cas de conflit, je cite, il restera dans l'histoire comme le premier président d'un pays faible à entrer en guerre contre une superpuissance nucléaire, tacle encore le journaliste. Et tout ça pour prouver sa souveraineté sur un banc de sable dont les Philippins n'ont jamais entendu parler. Alors Manille n'est pas exactement seule dans cette affaire. Elle bénéficie de la protection des États-Unis depuis 1951. Mais tout traité peut être rompu lorsqu'il va contre les intérêts d'un pays, rappelle l'éditorialiste du Manila Times. Et entre défendre les Philippines et déclencher une guerre économique, voire nucléaire avec la Chine, les États-Unis ont déjà fait leur choix, conclut-il.
François, vous vous êtes également intéressé à une série de manifestations en Inde, un peu plus de 2 semaines avant les élections législatives.
Oui, des dizaines de milliers d'Indiens ont crié leur colère dans les rues de New Delhi hier après l'arrestation d'un des principaux opposants au Premier ministre Narendra Modi. Alors, leur héros arrêté la semaine dernière s'appelle Arvind Kejriwal, c'est le leader de la coalition d'opposition India et il est accusé d'avoir reçu des pots de vin en échange de l'octroi de licences de distribution d'alcool et ce serait évidemment une manœuvre politique, dénonce la dirigeante du parti d'opposition AAP, Atishi Marlena Singh, au micro d'Al Jazeera. Si juste avant les élections, les dirigeants de l'opposition sont arrêtés, si juste avant les élections, les comptes bancaires des principaux partis d'opposition sont gelés, si juste avant les élections, les bureaux des partis d'opposition sont mis sous scellés, comment quelqu'un pourra-t-il se présenter aux élections face à Narendra Modi ? Toute autre opposition a été éliminée, c'est exactement ce qui se passe en Inde. Voilà, et en une du quotidien The Indian Express, d'autres membres des partis de la coalition d'opposition accusent Narendra Modi d'utiliser les forces de l'ordre pour intimider ses opposants. Arvind Kejriwal est loin d'être le premier membre de son parti à finir derrière les barreaux pour des accusations de corruption ou de fraude fiscale. Pour la première fois, les leaders de l'opposition demandent d'une seule voix à la commission électorale de veiller à ce que les élections restent équitables. Près d'un milliard d'Indiens voteront à partir du 19 avril pour élire leur nouveau gouvernement. C'est le plus grand scrutin au monde. Mais la réélection de Narendra Modi pour un troisième mandat est quasiment acquise, notamment grâce à sa politique nationaliste.
Et pour finir, direction les États-Unis où les données confidentielles de dizaines de millions de clients d'un opérateur de télécom se sont retrouvées dans la nature.
Oui, c'est le média en ligne TechCrunch qui révèle ce week-end l'ampleur du scandale. Les données personnelles de 73 millions d'actuels et d'anciens clients de l'opérateur de télécom AT&T ont fuité et se sont retrouvées vendues au plus offrant sur le dark web. Alors dans cette fuite, on retrouve des noms, des adresses, des numéros de téléphone et des dates de naissance, mais surtout plus grave encore, des numéros de sécurité sécurité sociale ainsi que des mots de passe. Alors le géant des télécoms n'a pas encore identifié l'origine de cette fuite et dit n'avoir détecté pour l'instant aucune trace de piratage. C'est loin d'être la première fois que les clients d'AT&T subissent une déconvenue pareille. La dernière fuite de données remonte à mars 2023, mais seulement 9 millions de clients avaient alors été touchés. Ces vols de données personnelles chez les opérateurs de télécoms sont particulièrement lucratifs pour les hackers et particulièrement coûteux pour les entreprises. En 2022, l'opérateur T-Mobile avait dû débourser 350 millions de dollars pour dédommager 50 millions de ses clients après une fuite de données similaire.
Merci François Chagnot pour cette revue de presse internationale. Dans quelques instants, on reste à l'étranger, ou plus exactement, nous allons comparer ce qui se passe à l'étranger à ce qui se passe en France en matière de drogue. Aujourd'hui, l'Allemagne légalise le cannabis à usage récréatif.